Avant d'aborder avec notre ami Jean-Claude la deuxième partie, puisque si vous avez été attentif à un certain moment, on dit qu'il y a une étude qui a été faite sur 900 vétérans. Il est bien évident que ce film a été fait en 2004 et que maintenant nous sommes en 2008 et que l'étude s'est prolongée. Malheureusement, ce qui a été fait en 2004 sur 900 vétérans, le pourcentage est exactement le même avec 1800 vétérans. C'est pour ça qu'on aimerait bien avoir de nouveaux adhérents non malades pour être au moins se rassurer, nous, qu'on n'est pas aussi atteint que ça. Je vous prie de m'excuser de mon petit accent parisien, mais bon, j'ai fait l'effort de monter jusqu'ici. Mais maintenant que vous avez vu la première partie, si vous avez des questions, si vous voulez entamer le débat, que ce soit un petit peu interactif. D'autant plus que vous avez des vétérans ici de votre région, donc il serait intéressant de peut-être leur demander leur avis ou peut-être poser des questions. On est tout oui, madame.
Comme les dernières fois, il faut utiliser le micro parce qu'on enregistre et tout ce qui se dit ici est ensuite diffusé en ligne sur Internet. Voilà, donc je vous demande de demander le micro.
Il est bien évident que c'est diffusé simultanément avec le ministère de l'Intérieur.
Moi, si j'ai bien compris, ce sont des civils, hein, parce que j'ai pas compris si c'était militaire ou civil en fait.
Alors, parmi les 150 000 personnes estimées qui ont participé aux essais nucléaires, il y a de tout. Alors, évidemment, il y a principalement des militaires du contingent de l'armée de terre pour ce qui est le Sahara. Et de la marine nationale, dont je suis moi modeste représentant, pour ce qui est de la Polynésie. Mais il y avait du personnel civil, membre du CEA, du commissariat à l'énergie atomique. Vous voyez, je m'avais fatigué cette première. Des gens qui étaient missionnés, c'était des entreprises privées en métropole qui étaient envoyées là-bas pour une mission particulière, construction de sites, amélioration ou autre. Du personnel militaire de la marine nationale engagé, appelé, de carrière. Du personnel de l'aviation, appelé, engagé. Des légionnaires. Quelques gendarmes. Et des membres du génie de l'armée de terre qui étaient à Mururoa aussi. Ce qui est très grave pour eux d'ailleurs parce que ce n'est pas marqué dans leur état de service. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ah, la population locale. Alors, au niveau de la population locale, Mururoa avait été, Mururoa-Teoheia avait été pratiquement évacué, Fangataufa aussi avant les essais, c'est-à-dire en préparation, mais c'est une population très très restreinte de mémoire comme ça. Je crois qu'en Fangataufa, ils étaient 50 ou 60 habitants. Mais sur Mururoa, il y a eu des travailleurs évidemment polynésiens. On a été chercher, comme dans le Sahara, de la main-d'œuvre locale. Dans le Sahara, on les appelait les Pélos. Pour ceux qui connaissent le pauvre Pélo, la Sahara, on les appelait Pélo. En Polynésie, on les appelait les Taipouettes. Voilà. Mais bon, ces gens-là, par contre, l'association Mauritatu, avec laquelle nous sommes en relation, qui est notre antenne en Polynésie, comme nous, on est leur antenne en métropole, eux, ils ont réussi à obtenir ce que nous n'avons pas encore réussi à obtenir, c'est-à-dire le suivi médical, en espérant que leur gouvernement tienne.
Si je peux me permettre, là, je pense que vous avez oublié quelque chose, parce que il y a des atolls et des îles qui étaient habitées dans la zone de retombée, très proche, par exemple les îles Gambier. Et puis il y a des habitants sur l'atoll de Turea, et qui, avec si je peux appeler ça des aventures, c'est-à-dire oui, voilà, je te laisse
Ouais,
parler.
voilà, je vais te répondre. Ouais. Alors bon, au niveau des effets des essais nucléaires, aucune île de la Polynésie française n'a été épargnée. Il y a eu des pics radioactifs à Papeete dans les années 71-72. Les îles Gambier, dont vient de parler notre ami, ont été polluées. Les Tuamotu, les Australes, les Marquises. Toutes les îles de Polynésie ont été touchées, y compris évidemment certaines îles étrangères comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Est-ce que ça répond à ta réponse, à ta question? Ce que disait Madame, je pensais uniquement à la population sur Fangatofa et Mururoa. Il est bien évident que tout le reste a été touché. Il a même été question à un certain moment de faire un Club Med à Fangatofa. Je ne sais pas pourquoi l'idée a été abandonnée. Certainement que ça coûtait trop cher, je pense que c'est ça.
Il faut savoir que le premier tir qui a eu lieu mois de juillet, je ne sais plus le jour, je crois que c'est le 6 juillet 1966, quatre jours après, ça retombait sur les Gambiers. Les îles Gambiers, c'est un groupe d'îles qui se trouve à 400 km au sud-est de Mururoa. Population environ 530 habitants. Donc, quand c'est retombé sur les Gambiers, le nuage radioactif, les militaires chargés de contrôler l'ambiance de l'air ont constaté une élévation de la radiation. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont appelé les autorités à Papeete. Les autorités à Papeete ont envoyé un bateau laboratoire, voilà, qui a fait des prélèvements sur la faune, sur la flore, et qui a constaté cette élévation de température, de radioactivité. Mais donc le responsable a envoyé son rapport à Papeete. Et là, les autorités officielles, civiles et militaires, d'un commun accord, ont décidé de se la boucler. Parce que c'était le premier tir d'une campagne de 30 ans, puisque 66, ça durait jusqu'en 96, hein, et ça mettait en péril toutes les campagnes à suivre. Hein. Donc, il y a quand même 530 habitants au Gambier, à l'île de Mangareva, à Rikitea exactement, qui ont pris 16 fois la dose de Tchernobyl. Personne ne l'a su, sauf eux. Hein. Ça s'est trouvé découvert il y a quelques années. C'est un secret défense qui a été inventé par un journaliste. Donc, petit à petit, ça se dévoile, ça se dépouille. C'est la façon dont on a été... On nous a menti. On nous a menti en permanence. Il y a eu un autre essai, en 74, un petit essai, une bombinette. Manque de peau, cette bombinette, elle est montée en atmosphère, et généralement, il y a la queue du champignon... Et le nuage du champignon qui, lui, ben, s'étale et se disperse et va au gré du vent. Vraiment, au gré du vent. Là, manque de chance, il s'est trouvé bloqué sur un plafond de 4000 mètres. Alors, il s'est trouvé bloqué, il a pas pu monter. Donc, il s'est étalé. Il s'est étalé et 4 jours plus tard, on l'a retrouvé sur Tahiti. 1200 kilomètres. Tahiti, c'est une île avec un pic, une île volcanique avec un pic de 2000 mètres. Donc, c'est arrivé sur le pic et c'est retombé en pluie. Mais c'est retombé d'une manière irrégulière. Comment on s'est rendu compte que Tahiti a été contaminé ? Récemment, il y a un vétéran de Polynésie qui décède. Sa femme, sa veuve, décide de demander son dossier médical. Et on s'aperçoit qu'en 1974, il a été surdosé. Alors que c'est une personne qui n'a jamais allé sur les sites, qui a toujours travaillé à Tahiti. Alors, on va essayer de masquer un petit peu cette anomalie, parce qu'il en est mort quelques années plus tard. Comment on peut masquer cette contamination, cette irradiation ? Ben, c'est très facile, hein. Je vais vous expliquer comment ils ont fait. On prend des doses élevées, on prend des doses faibles, et... on écrète, c'est-à-dire qu'on fait des doses moyennes. Et les doses moyennes, elles sont acceptables. Mais celui qui a pris la forte dose, il en est mort. Voilà des exemples de mensonges. Mais il y en a des quantités comme ça, de mensonges. Je vais vous citer encore au Sahara. Au Sahara, l'année dernière, il y a eu un colloque algérien et le gouvernement algérien, les Moudjahidines, nous a invités à ce colloque et on s'est rendu sur le site d'Inamgoël, où il y avait eu un incident de tir il y a 46 ans, le 1er mai 62. Oui, 46, c'est ça, oui. C'est oui. Ça. Et à l'endroit où le tir a débouché, on n'a pu rester que 20 minutes, et on prenait la dose annuelle, 46 ans après, et une zone à tout vent. L'organisme officiel qui a eu le prix Nobel de la paix, qui s'appelle l'AIEA, a reconnu que le site était pollué, mais pas dangereux, tant qu'il n'y aurait pas de vie autour de cet ensemble. C'est pareil sur le site de Reagan. Sur le site de Reagan, il y a un chercheur qu'on a vu là à l'écran tout à l'heure qui y est allé en novembre l'année dernière. Et en visitant le site, à proximité des points zéro, il a pu apercevoir des cages où on mettait des animaux cobayes. Alors, les tirs de Reagan, ça date de 60-61, on est en 2008. Il y avait encore des animaux momifiés dans des cages. Et c'est vrai que ça se garde bien, parce que pour ceux qui ont fait Reagan, c'est un endroit vraiment désert, où il n'y a pas de végétation animale ni végétale. Il fait 60 degrés en permanence, donc ça fossilise. Moi-même, j'ai retrouvé des fossiles de crustacés quand j'y suis allé. Donc, voyez-vous, tout ce genre de choses, ce sont des mensonges. Donc, ça agit sur notre organisme, malgré tout. Il faut savoir que l'UNESCAR, qui est l'organisme de l'ONU qui mesure les radiations, a admis là récemment que les petites doses étaient aussi dangereuses que les fortes doses. Alors que, jusqu'à présent, seules les fortes doses étaient dangereuses. Aujourd'hui, il dit qu'une personne qui reste plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois sur un site contaminé accumule des doses. Et l'organisme n'évacue pas ces doses. Donc, quand on restait environ, c'était 4 à 6 mois sur un site en Polynésie, eh bien, on en prenait quand même. Aujourd'hui, ce qu'on réclame, c'est un suivi sanitaire. Hein, on demande, et ce suivi sanitaire, il existe. Hein, on a aujourd'hui, la médecine a fait des recherches, a fait des, et on peut savoir si un jour dans notre vie, on a été contaminé, comme nous tous, simplement par l'ADN biologique. L'inconvénient, hein, 600 euros non remboursés par la Sécu. Donc le prix est un petit peu dissuasif. Et si l'Institut de la Sécurité, l'IRSN, qui fait ça.
Au niveau des exemples, il m'en vient à l'esprit. Qui a été passé des vacances au Maroc? Qui en a ramené des souvenirs, plateau en cuivre ou autre? Alors, il est arrivé une anecdote dans les années 70, 80, alors j'espère pour vous que ça ne vous arrivera pas. Il y a une famille qui a commencé, alors je crois que c'est la mère, je ne sais plus, il y en a un qui a commencé avec le cancer de la thyroïde. On en rit, mais c'est pas risible, vous allez voir. Alors, suivi, le médecin, tout ça, et puis, je crois que c'est un des enfants qui attrape pareil. Et toute la famille a un cancer. Et cherche d'où ça venait. Et on s'est aperçu que les joyeux souvenirs, les plateaux en cuivre marocains, étaient complètement irradiés. Tout simplement. Parce que quand la France a évacué les bases de Reagan dans le Sahara, ça a été fermé, mais un petit peu à la diable. À tel point d'ailleurs que sur la visite qu'évoquait Jean-Claude tout à l'heure, novembre 2007, on voit encore des carcasses de camions quelque part. Et les braves bédouins, ils ont été chercher les cuivres. Hein. Parce que pour faire sauter une bombinette, c'est comme un pétard de jardin, il faut quand même l'électricité. Hein. Donc ils ont été chercher les cuivres, ils ont tout vendu ça au Maroc. Un autre exemple, on a un vétéran qui a fait le Sahara, et puis il a gardé les souvenirs, comme tout ancien militaire, ou autre, on a un souvenir, le chapeau de brousse, le ceinturon, le ci, le là. Et un jour, il va dans un musée en Allemagne, et c'était un musée, c'était le musée de la guerre, un truc comme ça, et il y avait des compteurs GIGR. C'était une exposition de compteurs GIGR. Et voilà notre brave ami qui rentre dans le musée, ça se met à sonner de partout. Alors évidemment, la sécurité lui tombe dessus et tout. Et il dit, je sais pas. Alors il enlève son chapeau, ça continue à sonner, il enlève sa ceinturon, puis ça sonne plus. Voilà, il était rentré du Sahara. Alors bon, on suppose quand même que le chapeau, ses chapeaux de brousse, il avait déjà été nettoyé, le ceinturon en cuivre, mais ça lui est arrivé 10 ou 15 ans après le Sahara. Voilà, ce sont des petits exemples comme ça, des petites anecdotes Entre parenthèses, marrante. Vous avez d'autres questions? Là-bas, la dame, là-bas.
Donc, je pense qu'on a découvert la radioactivité au début du XXe siècle. On n'était pas parti là-bas sans le savoir. Il y a des gens qui le savaient. Est-ce qu'il y en avait qui étaient protégés et d'autres non? Donc, est-ce que les gens là-bas savaient comment se protéger? Puisque vous aviez des compteurs GGR, il y avait également donc, des gens qui savaient qu'il ne fallait pas non plus. Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont été envoyés pour. Est-ce que vous avez une idée de cette réflexion, enfin de cette idée de certains sont protégés, d'autres non, quoi.
Oui, non, mais je ne pense pas que la question, ce soit ça. La question, c'est plus, est-ce qu'il y en avait qui étaient au courant, qui étaient protégés, et d'autres qui ne l'étaient pas.
Voilà.
C'est bien
donc
ça.
Donc, on connaissait, je dis ça parce que ma mère a travaillé au CEA, et elle n'était pas ignare dans la matière, et elle était en France, elle n'est pas allée là-bas. Je pense que quand vous êtes, enfin, que le CEA est allé là-bas, qu'il y a des militaires qui sont allés là-bas, quelle était la dose de connaissance quand on va sur place, quoi.
Oui. Alors là, il y a deux problèmes, entre guillemets. Il y a eu des gens, certes, qui ont été là-bas en connaissance de cause et qui se sont crus protégés. Parce qu'on connaissait les effets Nagasaki, Hiroshima, les essais américains, Bikini et compagnie, on connaissait les essais. On n'avait pas, alors là, par contre, il faut pardonner à l'ancien gouvernement, à nos ancêtres, parce qu'ils n'avaient pas la notion exacte des réalités des choses. Ils n'étaient pas dans la réalité des choses. Ils étaient dans, il faut développer une bombe atomique. Bon. Alors, il y avait des gens du CEA qui étaient informés qu'il y avait un danger, mais qui n'appréhendaient pas complètement le danger. Mais ils étaient un peu plus protégés. Ouais, il y avait des bunkers et compagnie. Mais bon, on a eu l'exemple de M. Mesmer qui était hyper protégé et il était tellement bien protégé, quand le nuage est revenu dessus, tout le monde est parti à la course. Lui en premier, c'est normal, il était ministre. Et il a été le premier à prendre l'avion, mais il est passé quand même pendant 2 heures à la douche. Ensuite, Paleski, par contre, son garde-corps, lui, il a pris la douche, mais il y est resté. Ensuite, on a quelques écrits, parce que c'est vrai que sur le Sahara, on manque de beaucoup d'informations, si ce n'est le témoignage de ceux qui y étaient. On a très très peu d'écrits. Alors qu'en Polynésie, on commençait à pratiquer un petit peu l'informatique, donc les choses étaient un petit peu plus classées. Bon. On sait parfaitement, on a un document qui dit, où on voit que le gouvernement donne l'ordre d'envoyer, je ne sais plus, je crois que c'est 40 ou 50 000 masques à gaz, combinaisons et compagnie au Sahara, qui ne sont jamais arrivées. Elles ne sont jamais arrivées, pourquoi ? Parce que rien n'a changé d'ailleurs depuis. Un gouvernant dit, est-ce que j'ai 200 tonnes de cachets d'aspirine pour donner à mes soldats? On va lui dire, oui, on les a. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on n'a pas le budget pour les envoyer. Et en gros, c'est ça. En gros, c'est ça qui s'est passé au Sahara. Ensuite, pour la Polynésie, c'est un peu le même style. C'est à peu près un peu le même style. On devait être tous équipés, personnel navigant, dont je faisais partie, on devait être tous équipés de tenues, ne serait-ce que tenues blanches quand on naviguait. Or, ben, on faisait les prélèvements sous le nuage, et puis on avait un système d'arrosage en pluie pour décontaminer le bâtiment. Alors c'est simple, on puisait l'eau contaminée pour arroser, pour décontaminer. Mais bon, et pour se protéger, on avait un masque de plongée. Pourquoi ? Parce que l'arrosage en pluie, ça tombait dans les yeux, donc ça faisait mal, on n'arrivait pas à voir si les buses étaient bouchées ou pas. Voilà. Bon. Mais il y avait, normalement, l'intendance aurait dû faire suivre de quoi nous protéger. Est-ce que, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais il y a autant de négligence que de mensonges. Il y a de la négligence et des mensonges. Maintenant, il y a aussi des affaires carriéristes. On sait qu'il y a des gens du CEA qui sont allés là-bas parce que c'était bon pour leur carrière. Et vous avez un exemple dans le film de Michel Carrillo, qui fait partie des vétérans qui ont gagné leur procès. Lui, il y a été, mais il a déclaré qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient complètement occultées, parce que si certaines choses avaient été révélées, on n'aurait plus eu aucun membre du contingent ou engagé volontaire qui aurait été volontaire pour aller en Polynésie. Voilà, quand il y avait la guerre d'Indochine, il y avait des volontaires, mais là, au moins, la mort se voyait, tandis que là, il n'y avait personne. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées pour éviter, comme disait Jean-Claude tout à l'heure, pour éviter que les essais s'arrêtent, en fait. Voilà, le premier accident, on se tait, le deuxième, on se tait, et puis on continue parce qu'il faut faire, il faut poursuivre.
C'est, excuse-moi, juste, je peux me permettre ?
Non,
juste, si tu fais juste après, parce que il y a un document, c'est le tir Canopus, c'est oui. un tir atomique qui a été réalisé, un des cinq tirs qui a été réalisé, donc qui a explosé en 68. Puis vous allez voir, c'est tourné en Super 8, les photos étaient interdites, les prises de vue interdites, et c'est tourné par un marin du bâtiment de soutien logistique Rance. C'est sur Internet, et puis on va le passer. Vous allez voir comment, tout de suite, ça va être révélateur de la façon dont on est protégé à une vingtaine de kilomètres du point de tir. Putain.
Non, c'est pas ça, c'est Canopus.
Qui a dit qu'on s'ennuie?
Alors là-haut, ce qu'on voit, c'est le ballon qui soutenait la bombe pour les tirs aériens. C'est pas celui-là, mais on va le. C'est, là, vous avez vu Mururoa. Et c'est.
Ouais, tu y étais dessus, Canopus.
C'est Canopus, voilà.
Vous remarquerez les lunettes de protection.
Là, il y a une combinaison avec ouais. La ligne rouge, c'est une combinaison de sécurité.
C'est une combinaison de sécurité. Ça n'a rien à voir, c'est le pompier du bord. Hein. Et le pire là-dedans, c'est qu'on est au spectacle. On a eu un ministre de la Défense, il y a quelque temps de ça, qui disait qu'il n'y avait aucun bâtiment à moins de 400 km du tir. Et là, vous remarquerez les avions qui vont passer dans le nuage pour faire les relevés.
Voilà, c'est pas d'une très grande qualité, mais d'une très grande véracité. Comme quoi, les belles images ne sont pas forcément les meilleures.
C'est ce qu'on appelle pris sur le vif.
On peut rallumer ? Ça, vas-y, excuse-moi.
Pour répondre encore à madame là-bas, faut admettre qu'il y a eu 210 essais. 210 essais. Essais. Dans le mot essai déjà à lui seul, il y a toute une panoplie de... Essai, ça veut dire, je lance une pièce en l'air, trois possibilités. Elle est pile, elle est face, elle est sur la tranche. Un essai, c'est ça. Et parfois, elle était sur la tranche. Il faut savoir qu'à Reagan aussi, on a eu une unité qui est allée... Une unité qui était en Allemagne, qu'on a fait prendre l'avion. On l'a emmené à Reagan et on l'a fait manœuvrer quelques heures après le tir. Cela, on ne les avait pas prévenus. Pour savoir, pour connaître le comportement des personnes en période de conflit nucléaire. C'est pas de la chair à canon, c'est de la chair à neutrons, ça s'appelle.
On a été plus modeste que les Russes, puis c'est vraiment un régiment.
Oui, bonjour. J'ai une question. Où en est la procédure judiciaire aujourd'hui ?
Vas-y. Environ 300 dossiers sont sous le coude de notre avocat. Environ 15 dossiers ont abouti. Moitié-moitié au tribunal de la sécurité sociale et la moitié au tribunal de pension militaire. On n'a plus de facilité avec le tribunal de sécurité sociale qu'avec le tribunal militaire. Le tribunal militaire met en avant... le fait que tout militaire doit déclarer sa maladie 90 jours après sa libération. Alors, c'est un petit peu étonnant sur des maladies qui se déclarent des décennies après exposition. Il faut savoir que quand vous êtes irradié ou contaminé tout simplement, ça atteint vos cellules. Ou vous êtes irradié, la cellule est meurt, on n'en parle plus, c'est une apoptose, ou la cellule est abîmée. Une cellule, ça se répare, ça se régénère bien ou mal. Si ça se régénère mal, elle a des fonctions différentes de celles qu'elle devrait avoir. Ça, c'est une première chose. Elle se répare mal, cette cellule, mais il y a un effet de voisinage et contamine les cellules voisines. Et au bout de quelques décennies, ça agit sur le reste de vos organes, les reins, la rate, le foie, tout ce qu'on veut. Des décennies après exposition. Alors, le ministère de la Défense fait à chaque fois appel sur ces 90 jours. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à obtenir. On a des appels, on a un vétéran de, je sais plus d'où il est, d'Orléans. Depuis 2002, les experts ne sont pas d'accord. Les experts et les contre-experts ne sont pas d'accord. Depuis 2002, ça fait 6 ans que ça dure, il est épuisé. Et c'est un type qui est malade. Vous avez vu tout à l'heure dans quel état était l'autre ? Ben lui, sensiblement. Et sur des maladies, on ne connaît même pas le nom.
Oui, c'est maladie inconnue.
J'aimerais savoir comment les personnes qui se sont déplacées pour avoir la gentillesse de venir nous voir ont été contaminées et comment ils s'en sont aperçus.
Alors, j'étais 2 ans à Muru, et en revenant, j'étais militaire de carrière, donc j'étais 2-3 fois malade à mon retour en 1974, mais les médecins, j'étais à l'hôpital de la Vera, etc., ils ont dit non, tu veux pas bosser, tu vas à cause du RS. Et alors, 2000, j'avais mal à la gorge et j'étais soigné par docteur Gletz et lui m'a envoyé à Paris. Et à Paris, ils m'ont dit, mais ils n'ont jamais remarqué cette tumeur. Alors, je dis non, ça fait déjà plus d'un an que j'ai mal, mais ce que j'avais, c'était des fatigues. Et je me suis aperçu de ça quand je suis revenu de Tahiti. Et j'étais à Conjuez, j'étais chef d'équipe pêtre. Au bout de 2 ans que j'étais en France, un saut de peinture, je n'arrivais plus à le lever. Or, que, avant, je levais les sauts de peinture de 30 kilos. Résultat, j'ai eu donc ce cancer. J'ai eu de l'asthme que le docteur Meunier de Nevers m'a dit que ça provient de là, avec une obstruction de 58% et qui attaque le cœur. Donc, j'ai une maladie et une fatigue constante. D'ailleurs, tous les gars qui sont ici sont fatigués. Et c'est comme ça qu'on s'en aperçoit. Mais 30 ans après.
Pour répondre en complément de monsieur, là, au point de vue médical, il y a eu des recherches de fait au niveau, bon, après Hiroshima, après les essais japonais. Les Américains ne savaient pas ce qui allait se passer. Donc, ils ont fait des enquêtes sur les victimes d'Hiroshima. Hiroshima, Nagasaki, instantanément, 250 000 morts, plus la suite. Ensuite, il y a eu des essais américains. Il y a eu des essais russes, des essais américains. Les Américains ont commencé en 1945 leurs essais dans le Nevada, sur un désert sensiblement sans habitants. Sauf quelques-uns quand même. Ensuite, ils sont allés à Bikini. Et ensuite, ils ont fait d'autres essais dans le Pacifique Sud. En 1988, le Congrès américain a reconnu une trentaine de cancers radio-induits, plus d'autres pathologies non cancéreuses. Ça veut dire que la cause à l'effet était reconnue. Récemment, il y a à l'université de Nouvelle-Zélande, c'est Auckland, c'est Auckland, voilà, oui. Il y a un professeur qui a fait une enquête sur des vétérans. Il a fait une enquête en aveugle sur 50 vétérans exposés et 50 témoins. Et il a pu se rendre compte des méfaits de la radioactivité. Il a retrouvé ses petits. À tel point que en Australie, oui, il y a eu les essais britanniques. Et suite à ces travaux, les vétérans britanniques ont fait un dépôt de plainte contre leur... Donc, au point de vue en France, oui, tiens, comment ça s'appelle, l'Institut Gustave Roussy, l'Institut de cancérologie de Villejuif. Il y a eu une étude de fait par le professeur De Vatter et Parmentier sur les populations de Polynésie, non pas les gens qui sont allés sur les sites, mais les populations avoisinantes, en satellite autour des sites. Et ils ont le pompon du cancer de la thyroïde. Surtout, ces maladies de la thyroïde, les plus fragiles, les plus vulnérables, ce sont les enfants et les adolescents qui sont maintenant des adultes, puisqu'on a arrêté les essais depuis. Alors, son étude au professeur De Vatter et de Parmentier n'a pas été reconnue par la communauté scientifique parce que on a mis en cause le fait qu'il n'avait pas les éléments de radioactivité qui sont détenus par le ministère de la Défense. Alors, ça, voyez-vous ça. Alors, au point de vue médical, on sait ce qu'on risque. Mais on n'arrive pas à faire le lien entre la cause et l'effet, c'est-à-dire entre ce qui s'est passé il y a 40 ans et aujourd'hui notre maladie. Voilà notre problème. Vous comprenez ? J'ai répondu à peu près à votre question. On connaît les maladies, mais on n'arrive pas à faire le lien. Voilà, c'est la signature qui nous manque entre les deux.
Mon cas personnel, moi, j'ai pas 60 ans. Et j'ai été victime, bon, j'ai fait 2 infarctus en 97 et en 2007. Et les camarades là pourront vous préciser la fréquence des problèmes cardiovasculaires de tous les vétérans des essais nucléaires. Bon, pour moi, ça commence, quoi, mais il y a d'autres collègues qui ont été beaucoup plus touchés. Je vais vous passer.
Le césium est un gaz de fission qui atteint les muscles. Et le cœur, c'est un muscle. Il y en a beaucoup de vétérans qui ont des maladies cardiaques, des doubles pontages. C'est fréquent dans notre catégorie.
Oui, donc moi j'étais à Reagan, au Sahara. Et donc j'ai participé à aux explosions. Et après, moi j'ai donc été rapatrié à l'hôpital militaire. Donc j'étais soigné pendant plus d'un an. Et donc ils ont considéré que j'avais des problèmes nerveux, plutôt en neuropsychiatrie. Après ils m'ont libéré et j'ai dû reprendre mon travail, bon, avec une petite pension. Et donc des problèmes de santé là. C'est-à-dire qu'après, j'ai pris mon emploi dans l'industrie. Après, je me suis installé à mon compte comme artisan serrurier ferronnier d'arbres. J'étais toujours très fatigué. Les nuits, je passais des cauchemars, casser des dents. Le matin, je me levais avec je voyais des étoiles. Bon, il fallait que je travaille. J'avais peut-être 100 francs de pension. On ne peut pas vivre avec ça. Et puis en quelle année là, donc, en 81, donc, j'ai eu une aggravation. Donc, je ne peux plus rien faire. Je suis très fatigué. Et puis après, là, depuis 2005, j'ai fait une phlébite et puis j'ai eu cette opération, il y a des artères qui se bouchent. Voilà. À peu près tout ce que je peux dire.
Merci. Il y a un monsieur là-bas, je crois, qui voulait poser une question. Hein.
Oui, vous parliez de du lien de cause à effet. Ben, vous avez finalement presque répondu à ma question. Moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est le décalage qu'il y a entre les physiciens, que moi j'en ai fréquenté quelques-uns parce que j'ai fait un peu de communication pour le CEA, qui sont persuadés que c'est pas du tout dangereux, puisque quand la plupart, quand ils reviennent, ils disent qu'ils ont un taux de radioactivité qui est plus élevé quand ils ont fait une radio des poumons que quand ils reviennent de Muru. Donc voilà, pourquoi il y a ce décalage entre des gens qui sont scientifiquement compétents et maintenant les vétérans qui ont ce constat qui est quand même assez atterrant et assez inquiétant. On sait que maintenant, donc les essais ont cessé en 96, je sais qu'ils continuent. Ils continuent même maintenant en France. Hein. Ils sont installés à Bordeaux. Merci, Monsieur Juppé. À raison de plusieurs dizaines de tirs par jour, hein, puisqu'on fait de la fission sur des petites bulles de deutérium qui font 0,5 mm de diamètre. Je pense que ces essais ont certainement aussi des causes. On le saura probablement en 50 ans. Voilà. Donc je m'interroge sur effectivement, votre problème, c'est le lien de cause à effet. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites pour ça?
Je vais vous citer simplement une petite anecdote d'un vétéran. Un vétéran qui était à Papette, qui était l'hôpital de Papette, l'hôpital militaire de Papette, ça s'appelait le Jean Prince, hein, Otaonais, hein, Jean Prince, qui lui était chargé de la spectrogammétrie, vous savez le cercueil où on passe à l'intérieur là, pour mesurer les radiations internes. Et il était militaire, il faisait son boulot, quoi. Donc il passait toutes les personnes. Puis il mesurait. Et un jour, on l'envoie en mission à Touraya. Touraya, c'est l'île qui est la plus proche de Mururoa, c'est-à-dire à 130 km, c'est une île habitée. Et il y va avec ses valises sous le bras et ses instruments de mesure. Et il s'est rendu compte, en arrivant sur le site de Touraya, qu'il y avait un décalage dans les réglages de ces appareils. Les appareils de Touraya mesuraient un tiers moins fort que ceux de Papette. C'est un exemple de mensonge. Quand on est sur site de Muru, ou d'ailleurs, hein, je vous parle de Muru parce qu'on est en Polynésie, on est mesuré sur des ambiances, on n'est pas mesuré de manière individuelle. Quand on demande son relevé sanitaire, on n'est pas mesuré individuellement, on est mesuré dans une ambiance. Et je vais aller plus loin. Moi, j'étais mesuré sur un lieu d'affectation, mais pas sur un lieu d'exposition. En disant autrement, je travaillais à Paris et j'étais mesuré à Marseille. Vous voyez le suivi médical. J'ai eu ma première visite médicale 3 ans après être passé sur site. Donc, ne me parlez pas de ci.
Au niveau des physiciens, je pense qu'il y avait certains qui étaient conscients et d'autres qui ne l'étaient pas ou qui étaient mal informés. Au niveau des physiciens, vous serez d'accord avec moi qu'il y a plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Ce qui se passe à Bordeaux, c'est vrai que les expériences continuent, mais d'une façon tout à fait différente et peut-être même beaucoup plus dangereuse, puisque là, nous faisons ni plus ni moins que reproduire un soleil dans une petite boule. Si un jour ça nous échappe, il n'y a plus de Bordeaux. Moi qui habite à 100 km, je m'inquiète beaucoup, mais comme je suis déjà malade, je ne risque plus grand-chose. Mais les physiciens, c'est vrai que c'était à plusieurs niveaux. Alors je pense qu'à très haut niveau, ils étaient conscients. À plus bas niveau, comme disait Jean-Claude, ben, il y avait des choses curieuses. Des choses tout à fait curieuses. Maintenant, moi j'ai un ami qui est physicien, qui est même professeur à l'université de Liège. Et quand je lui ai parlé des effets au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, il m'a dit il faut que je révise mes notes parce que j'étais totalement ignorant de ce genre de problème. Professeur à l'université de Liège. Voilà, parce que je ne sais pas si vous avez répondu, mais...
Je pense qu'on mettra autant de temps, puisque je crois que le CEA a mis en place des supercalculateurs pour dépouiller les essais qui ont été faits à Muru pendant 20 ans, c'est ça ?
Plus que ça,
30 ans. Donc on mettra apparemment autant de temps à dépouiller aussi toutes les incidences et tous les effets des essais sur les hommes.
S'ils veulent faire. C'est 50 ans, oui. Mais pour revenir à un autre exemple, comme tout le monde connaît, hein, si je vous parle d'avril 86, hein, dans votre tête, ça fait tout de suite, hein, vous allumez la lumière, c'est Tchernobyl. Un réacteur nucléaire, ça part vers la Russie, et puis hop, d'un seul coup, ça fait demi-tour. Ça va traverser l'Europe, ça va arriver en Allemagne, ça va arriver en Belgique, ça va arriver Suisse, Italie, mais la France, pouf, bloqué. Il n'y a rien sur la France.
Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était encore l'ancienne URSS, et comme il n'y avait quand même plus le mur de Berlin, si, il y avait encore le mur de Berlin, donc le nuage, très discipliné, il a suivi le mur de Berlin, il est resté à l'Est.
Ah, n'est-ce pas ? Vous ne croyez pas qu'on nous a roulé aussi dans la farine, hein ?
Ah, au niveau de Tchernobyl,
après, je travaillais à la recherche, plein de domaines, parapsychologie, radiesthésie, métaphysique, et j'en passe. Et donc, j'étais passionné de recherche. J'avais un détecteur de champ magnétique, champ électromagnétique, et je vais acheter à Paris un mini GGR. Et donc, par curiosité, tout de suite après la casserole de Tchernobyl qui a explosé, et je regarde toute radioactivité, ça dépassait 2-3 fois la cote d'alerte. Alors, j'en ai eu la chair de poule, j'ai échappé l'appareil. Il y a des pitioles qui clignotent. Alors, je suis retourné comme il était sous garantie. Donc, ils m'ont changé. Voilà. Donc, vous voyez, la radioactivité s'est arrêtée à la frontière. Là, je peux témoigner que non. J'ai prévenu personne. Là, j'ai pas prévenu la gendarmerie ni rien du tout. Hein, parce qu'il vaut mieux se taire dans ces cas-là, je pense.
Est-ce qu'il y a des questions
Mais il paraît qu'à Tchernobyl, le pire est à venir. 20 ans après, 22 ans après, le pire est à venir. On a eu une rencontre avec des journalistes qui étaient allés faire une enquête sur Tchernobyl et ils nous disent les gens sont déjà atteints, dégénérés et continuent à se dégénérer puisqu'ils vivent dans un environnement qui est irradiant.
Sur un mensonge... peut-être que les gens ne savent pas, mais moi-même je suis ancien de Mururoa et de Fangatofa parce que j'ai participé aux 5 tirs de la campagne de 1968 et j'étais appelé du contingent et je travaillais pour le CEA dans un service mixte quoi, qui s'appelait service mixte de sécurité radiologique, donc j'ai plein de, je pourrais parler aussi pendant des heures du bricolage atomique, mais qui était... Quand on a 18 ans, vous savez, et on n'a pas une conscience écologique ni une conscience politique très forte, moi, quand j'y pense maintenant, je me dis qu'est-ce qu'on est bête. Et les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être... Je les trouve moins bêtes que ce qu'on était. Et donc, pour vous donner un petit un exemple de sincérité et de prise en compte du personnel, à Mururoa, on s'est rendu compte un jour que le taux de radiation était trop élevé et qu'il aurait fallu interdire la baignade. Donc, je ne sais pas à l'époque combien il y avait, je crois que c'est 5 ou 6 000 personnes sur le site. Et quelques jours après, les taux ont été changés. C'est-à-dire qu'on avait modifié les taux parce qu'il était impossible d'interdire en plein Pacifique, sur un atoll, à 6 000 militaires et civils qui étaient là, de les empêcher d'aller se baigner. Il y a eu aussi une autre à Fangatofa, par exemple. On nous a dit, moi je me suis baigné à Fangatofa juste après le tir qui était, je crois qu'il s'appelait le tir Procyon, c'est-à-dire c'était la première bombe H thermonucléaire, donc de 2600 kilotonnes. Et on était donc sur le bâtiment de soutien logistique Rance. On est resté pendant 2 mois juste après le tir pour faire des relevés sur le point zéro, puisqu'on était sur le site. Et on nous, même chose, on allait se baigner, on faisait du ski nautique. On avait même des Tahitiens qui étaient chargés de nous tirer de manière à nous distraire. Et on nous a demandé de nous baigner sans toucher le fond. C'est-à-dire de ne jamais toucher le fond. Voilà. C'était, donc ça fait partie. À l'époque, ça ne nous étonnait pas plus que ça. Aujourd'hui, je pense que je ferais des bonds de 10 mètres, mais même plus. Il y a des tas de détails comme ça qui sont.
La bombinette que tu viens de décrire, là, de 2600 kilotonnes, c'est ça? Ouais, ça représente à peu près 200 fois Hiroshima. Donc, bon. Pardon? Je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre, à mon avis, oui, mais je ne peux pas vous répondre. Vu qu'il y a eu des irradiations, il est vraisemblable qu'une partie de la faune ou de la flore a gardé des traces. C'est évident. Bon, maintenant, vous savez que la Polynésie est indépendante, même si c'est un territoire français. Donc, nos amis des Mururoa et Tatou, c'est-à-dire l'autre association là-bas sur place, serait peut-être plus à même de vous répondre. Et là, vous me prenez un dépourvu. A priori, oui. Disons que je ne conseillerais pas d'aller passer des vacances dans certaines îles. Voilà.
À Tahiti, vous ne pas conseiller de passer des vacances à Tahiti, vous voyez.
L'hémisphère sud a vu passer les nuages, hein, parce qu'ils sont arrivés jusqu'en Australie, jusqu'en Nouvelle-Zélande, et ils ont presque fait le tour. Hein.
On va peut-être passer au diapo. Alors, les effets de tout ça, en 2008, puisque là, ce sont les derniers chiffres des vétérans 2007-2008. Alors, une petite pause là-dessus, s'il vous plaît. On insiste beaucoup là-dessus, l'AVEN ne fait pas de discrimination entre le personnel civil, militaire, appelé, engagé, armé de terre, armé de l'air, ainsi de suite. Ça réunit absolument tout le monde. Les personnels militaires, appelés, engagés de carrière, personnel CVA, personnel des entreprises sous-traitantes, toute personne qui a participé aux essais. Parce que, je souligne ça, ce n'est pas tout à fait par hasard, c'est parce que nous avons assisté à quelques campagnes de dénigration directement venues, peut-être, on ne va pas accuser tout de suite l'État, mais bon, je ne sais pas d'où ça venait, mais où on a réussi quand même à mettre un petit coin dans la veine et à dire à certains militaires, toi, qu'est-ce que tu fous en tant que militaire de carrière avec un tel ou avec un tel. Bon, et alors, donc, on a eu des petites associations comme ça qui se sont... on a stoppé le feu parce que à ce moment, on a dit, bon, ben, à ce moment-là, il n'y a qu'à faire aussi l'association de ceux qui étaient le GMC sur le GMC numéro 4 de la batterie 203 et puis l'association, et on s'en sort plus. Mais là, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'il y a eu un petit coin d'enfoncé et qui a fait quelques petits dégâts. On a perdu 200-300 adhérents, c'est pas bien grave. Mais, pour vous dire jusqu'où va le sous-marin. Tu le commentes ? Non.
Simplement pour vous dire que j'ai sur papier les résultats qui sont affichés. Hein.
Oui, pour ceux
à votre disposition.
Voilà. Alors ici, bon, mais vous avez la proportion des gens qui ont participé, 40% pour le Sahara, 57% en Polynésie, et Sahara-Polynésie, ça représente 3%. Demain, je pars avec...
ceux qui ont fait les deux.
Quand tir aérien, 1960-61, 4 tirs aériens, tir souterrain, 62-66, 13 tirs, Polynésie, tir aérien, 66-74, 41 plus 5 tirs dits de synthèse, c'est ça.
Il y a 370.
Et manque les souterrains de Polynésie.
En tir aérien.
Et, voilà. Et tir souterrain Polynésie, 147 tirs.
Avec des personnes, le nombre de personnes présentes sur site, 204, 343, etc.
Oui, ça c'est le nombre de personnes qui étaient présentes sur site, pardon. J'y vois très mal.
Total 547 en tir souterrain.
Alors, pour qu'une enquête soit précise, évidemment... Il fallait chercher qui était volontaire. Alors on s'aperçoit qu'il y avait une grosse majorité qui était non, et une autre partie qui est oui, et puis non précisé. Alors le non précisé, en fait le volontaire, c'est par exemple, je vais vous citer mon exemple, où je me suis embarqué sur un bâtiment à Dakar, et on m'a dit, viens sur notre beau bâtiment, tu vas faire 3 fois le tour du monde. J'ai fait 3 fois le tour du monde, merci l'État, mais on m'a oublié de me préciser que j'allais m'arrêter 2 fois 6 mois en Polynésie. Donc, est-ce que j'étais volontaire? Ben oui, pour partir outre-mer. Volontaire pour recevoir un petit nuage sur la tête? Ben non. Donc, je ne sais pas où je me situe là, peut-être dans les noms précisés. Informé pour chez la dame tout à l'heure. Est-ce qu'on était informé? Ben vous avez la réponse. Avant, pendant. Hein, et sur la santé, vous avez oui, non et non précisé.
Vous voulez que je vous dise mes consignes de sécurité? J'étais civil, moi. J'étais électricien civil. Et quand je suis parti au Sahara, puisque j'ai commencé au Sahara, on m'a dit, ben, tu pars en Afrique, munis-toi de vêtements légers et d'un casque colonial. J'ai eu du mal à trouver le casque colonial. Hein.
Alors, protection pendant les essais. Attends que ça s'affiche. Alors, non précisé 10%, parce qu'effectivement, tout le monde ne se souvient pas comment on était, surtout quand on avait 17-18 ans. Dosimètre 17% en possédé. Aucune protection 28%. Tenue chaude 23%. Alors, tenue chaude, pour ceux qui l'ont portée, moi je ne l'ai jamais portée, donc je ne peux pas en témoigner, mais vous pourrez toujours poser la question à ceux qui l'ont portée, s'il y en a un dans la salle, tu l'as portée toi. Donc, tu peux répondre.
Tenue chaude, il s'agissait d'une sorte de. Vous voyez les bleus de travail, les paysans du coin, ils ont ça. C'est une tenue, une sorte de bleu avec une fermeture éclair, avec une capuche. Et puis on mettait des surbottes en plastique pour aller en zone chaude. Et des gants, alors une paire de gants blancs, genre gants de chirurgien, et par-dessus une paire de gants, vous savez, les gros gants à remuer, à vider la fosse septique, là, vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Et puis, moi, je l'ai porté à différentes reprises parce que, par exemple, à Fangatofa, on avait une aire de simplement quelques centaines, je sais même pas, une centaine de mètres carrés de béton sur lequel on pouvait aller à terre. Et on jouait au volet parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire. Mais le ballon allait souvent en zone chaude. Donc il fallait passer par les cabines de décontamination. Donc on s'équipait, on mettait les surbottes, tout ça. On allait chercher le ballon, on décontaminait le ballon et ensuite on allait rejouer. Voilà, bon, c'est genre de... Et puis donc la tenue, alors pour vous dire par exemple que cette tenue, on n'a pas l'impression que ça protège de grand chose. Hein. Et les gens, il m'est arrivé de décontaminer des hélicoptères qui partaient vers le nuage après le tir. On nous donnait donc ces combinaisons et on avait des tampons, des sacs de coton avec de l'alcool et on était une dizaine à nettoyer un hélicoptère. Alors vous voyez tous les recoins qu'il peut y avoir dans un hélicoptère qui était allé sur le point zéro. On le nettoyait avec du coton et on mettait le coton dans les sacs poubelles. Et il faisait tellement chaud que Tout le monde retirait le masque puisque la sueur montait dans le masque, donc on finissait par enlever le masque, la capuche, et on nettoyait les hélicoptères avec du coton de cette façon-là. Et personne, aucun officier, aucun officiel, aucun scientifique, il y avait des ingénieurs du CEA, il y avait des gens là qui, personne ne disait rien et tout le monde trouvait ça absolument normal.
Il faut savoir quand même aussi qu'à Ao, bon, c'est vrai que c'est une base militaire, donc c'est très 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 discipliné. Donc la zone chaude et la zone froide, c'est une frontière bien bien établie. C'est-à-dire que les vautours, je ne parle pas des oiseaux, je parle des avions, les vautours étaient décontaminés là, vous voyez, et 200 mètres après, il y avait un match de foot. Les gars, ils étaient en train de décontaminer le vautour en tenue chaude. Et 200-300 mètres après, il y avait les matelots qui faisaient leur match de foot, plus ceux qui se baignaient à côté avec les écoulements de décontamination qui allaient directement dans le... Bon, ça, c'est maintenant à 55 ans que je peux m'en rendre compte. À 17-18 ans, on s'en foutait. Tant que personne ne disait pas que c'était interdit, on s'en foutait.
Imaginez-vous au Sahara, 50 degrés, hein, je ne sais pas exactement, hein, c'est dans ces eaux-là, hein, en tenue, avec une tenue de peintre, parce que moi j'appelle ça une tenue de peintre, c'est une tenue blanche là. C'était ça la tenue chaude. Essayez de tenir 4 heures là-dedans. C'est vrai, comme il dit, le masque, de temps en temps, au début, on le soulève parce qu'on a la sueur, ça arrive presque sous le nez, donc on évacue là. Et puis au bout de 5 fois, ben, le masque, on le descend, on l'a sur la poitrine, et puis c'est fini, hein.
Et autres, ce sont des témoignages. Ben, moi, j'avais un masque à gaz. Moi, j'avais une tenue particulière. Moi, j'avais ceci, moi, j'avais cela. Donc, on les classait dans les autres. D'où l'importance de faire remonter ces formations. D'ailleurs. Voilà, c'est rassurant quand même. Il est rassurant de savoir que sur 1800 personnes interrogées, il y en a 9,55% qui sont en bonne santé. Pathologie cancéreuse, vous voyez, comme quoi on pourrait s'imaginer que les maladies radio-induites, ce sont principalement des cancers, et on s'aperçoit que non, puisque ça représente quand même 35%. Et les pathologies non cancéreuses, 82%. Alors évidemment, c'est toujours, je rappelle, c'est un interrogatoire qui est pris sur 1800 vétérans. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est qu'on a les mêmes réponses quand on avait fait le premier interrogatoire sur 900 vétérans. C'est-à-dire qu'on double le nombre de questionnaires et on a toujours le même pourcentage à 0,2, 0,3 près. C'est linéaire. Alors, 639 vétérans ont 797 cancers. Non, il n'y a pas d'erreur.
Il y en a qui en ont plusieurs.
Ici, vous avez l'âge moyen du début de la maladie. Donc, vous voyez, c'est 51,6, plus ou moins 10 ans. Et on voit que le pic, effectivement, c'est à partir de l'âge de 60 ans, c'est-à-dire... J'y vois rien. Âge moyen 60 ans, c'est-à-dire 40 ans en moyenne après les tirs, puisqu'on estime que les gens ils avaient une vingtaine d'années en moyenne. Hein. Et les délais des essais, eh bien, voilà, on a délai des cancers après les essais. Bon, mais voyez, là, le grand pic, c'est entre 30 et 35 ans. Alors, la répartition des cancers. Je vais prendre ton micro, je vais mettre là-bas, parce que sinon, demain, je ne conduis pas moi.
Déjà que vous faites louper le match de France-Angleterre.
Voilà. Ah, on y voit mieux là. Alors, répartition des 609 cancers selon les explosions. Oh, pardon, je me calais quelque part. Voilà. Vous me permettez, madame, je suis assis à côté de vous. Merci, madame. Sur le Sahara, 139, c'est-à-dire 37,56% sur les essais aériens. Polynésie, 332, c'est-à-dire 37,77%. On s'aperçoit quand même qu'il y a C'est assez linéaire entre le Sahara et la Polynésie. Il y a toujours à peu près le même pourcentage. Et sur les souterrains, Sahara 104, Polynésie 49, soit 24,01%. La différence, je pense qu'elle vient essentiellement que les essais polynésiens ont débuté après les années 70 et que nous avons très peu de vétérans. Après, c'est-à-dire à partir des années 80, nous avons très peu de vétérans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas encore peut-être malades, je ne sais pas. Mais on a très peu de vétérans, donc alors ne parlons pas des essais de 90, à partir de 95-96. Oui, parce que là, on a souhaité quelque chose, non ? Non,
juste dans la page précédente, là, il y avait, voilà, au Sahara, il y a eu des fuites. Il y a eu une, deux, trois, quatre, cinq fuites. Dans des essais souterrains, ça se passait à Inéker. Inéker, c'est environ 140 km de Taman Rasset, au nord de Taman Rasset. Les tirs se faisaient dans une montagne granitique. Montagne d'environ 1 km d'altitude sur un plateau de 2000 mètres, oui, c'est ça de mémoire. Et la périodicité des tirs avait ébranlé cette montagne, si bien que quand il y avait des tirs, il y avait des fissures qui s'ouvraient, qui laissaient échapper des gaz, et après le tir, elles se refermaient. Il y en a qui se refermaient, il y en a qui ne se refermaient pas. Il fallait passer avec l'hélicoptère et injecter du béton dans les crevasses. Hein. Mais malgré tout, dans ces fuites-là, il y en a qui étaient contenus, mais il y en a qui n'étaient pas contenus. Donc il y a eu aussi de la casse aussi humaine dans ce genre d'incident.
Ce qui n'enlève pas ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au nombre d'essais souterrains en Polynésie, parce qu'on sait que là aussi, on sait très bien que le lagon a été fissuré et qu'il y a eu pas mal de dégâts aussi. Mais c'est vrai que c'est moins spectaculaire qu'au Sahara. Alors ici, on a les âges moyens au décès. Vous voyez, on est toujours dans la tranche des 60 ans. Et la durée, on oscille entre de 30 à 40 ans après. Alors, un petit peu plus inquiétant peut-être pour ceux qui sont parents et grands-parents. Voilà, nous avons 77,8% de nos gens qui ont eu 3022 essais possessés, c'est-à-dire que 2,13... j'y arrive plus, moi. Là, je fatigue. À 12% qui ont se retrouvé sans enfants et cause d'absence des enfants, stérilité 18% et impuissance 8,2 sur 3000 enfants nés post-essai. Voilà, je suis arrivé. J'y suis arrivé. Alors, on a le délai, là, le triste délai du nombre des enfants et l'âge de moyen des enfants après la période des essais. C'est-à-dire 2 à 4 ans après la période des essais, c'est là qu'on enregistre le plus gros pic de mortalité infantile. Alors, résultat de l'étude du docteur Jean-Louis Vallax, notre président, donc, porte sur 1800 vétérans et met en évidence que 82% présentent une ou plusieurs maladies, 35% ont subi un ou plusieurs cancers, 64% des cancers sont survenus avant l'âge de 60 ans, 38% avant 50 ans, et 63% des décès sont survenus avant l'âge de 60 ans.
On peut résumer un petit peu cette enquête. 1800 questionnaires. 1800 questionnaires, c'est une tendance. C'est pas une statistique. C'est trop peu. C'est réduit. C'est une statistique. Par contre, les Britanniques, les vétérans britanniques, eux, ont fait une statistique, c'est-à-dire un panel beaucoup plus important de vétérans. Et quand on compare les 38% qui sont décédés avant 50 ans, si on les compare aux vétérans britanniques, eux, ils sont à 36%. C'est-à-dire que c'est une statistique, d'où c'est une tendance. Mais on est vraiment dans la fourchette. La moyenne nationale, 17%. 17,38. Significatif.
Voilà, bon, l'absence d'études officielles, évidemment, les résultats, ben, ils sont comparables à ceux des autres pays, y compris ceux qui ont fait des études officielles. Donc, on ne peut pas nous dire que, ouais, on fait un petit peu de partialité. Et ces résultats indiquent que les essais français n'ont pas été plus propres que les essais anglo-américains. Je crois que la conclusion numéro 2 s'impose. Voilà, et donc, bon, c'est pour ça qu'on demande le vote d'une loi établissant la présomption de lien avec le service de liste de maladies, une harmonisation des législations internationales, une enquête épidémiologique sur l'ensemble des personnels civils et militaires qui ont participé aux essais, sans oublier, évidemment, les populations résidentes près des sites. Voilà, et je crois qu'on est... Non, on va passer la fin pour pas lasser l'auditoire, puisqu'on a déjà répondu à ces questions, action judiciaire, enquête sur la santé des vétérans, relations internationales. Voilà ce qu'on avait à vous dire sur l'AVEN ce soir. Ma foi, ben, comme on va tous dîner ensemble et que je commence à avoir soif en plus, s'il y a des questions, ben, je pense que pendant le dîner, on est tous là pour vous y répondre. Et puis ben, je vous remercie de votre attention et puis j'espère qu'on ne vous a pas trop lassé, qu'on vous a intéressé et que ben, c'est aujourd'hui en 2008, ça se passe en France et ce soir nous avons des malades et demain nous aurons peut-être encore des décès. Merci.
Jean. Bon, Jean. Nous on vous a pas menti.
D'habitude, je dis toujours, on a invité des menteurs, mais ce soir, j'ai du mal à le dire quand même.